Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 29 octobre 1992.
Quand on oublie le jugement d'existence, quel lien peut-on garder avec la réalité? Peut-on redécouvrir la réalité en l'approchant, mais ne pouvant, pas le dire clairement? Au fond, le jugement d'existence, c'est quand on pose le jugement d'existence. Tant qu'on ne pose pas le jugement d'existence, on n'a pas l'âge de raison. Puisque c'est la première émergence de l'intelligence. Vous voyez ? Non, ces petites fleurs qui poussent dans la neige, les personnages. C'est ça le jugement d'existence, poétiquement parlant. Il y a quelque chose qui émerge quand on l'exprime clairement. Très souvent, on ne l'a jamais dit avant. Et c'est la philosophie, dans un désir de vérité, qui l'explicite. Mathématiques, on ne pose pas le jugement d'existence. Puis subitement, on dit, tiens, c'est curieux. On se réveille le matin, on passe du rêve à vite, vite, je suis en retard. Qu'est-ce qui vous a réveillé? C'est le temps. Vous avez vu votre montre? Oui, le jugement d'existence est donné en premièrement pour nous par le temps. Aristote dit que par le verbe est lié au temps. Et par le temps, on découvre le verbe. Et le verbe par excellence, c'est être. Et donc, génétiquement, c'est très intéressant de voir l'explicitation du jugement d'existence. Mais il est présent, de sorte que des quantités de philosophes, au fond, n'expriment pas un jugement d'existence. La scolastique ne l'exprime pas. Dans Jean de Saint-Thomas, qui fait son... il n'exprime pas. Et toute la scolastique ne l'exprime pas. Et pourtant, il est présent. Pas du tout qu'il n'est pas présent. Il n'est pas mis en pleine lumière. Il en a besoin cependant qu'il soit mis en pleine lumière pour que vraiment on comprenne la nécessité de la philosophie première. Alors, je dirais, on fait de la philosophie, mais un peu comme un somnambule. On peut rester dans un certain réalisme, mais comme un somnambule. Se réveille. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de philosophies qui ne sont pas l'idéalisme, qui sont quand même la réalité, mais un peu somnambules. Les quantités sont comme ça. Alors, on peut aussi retrouver un réalisme par l'amour, la connaissance affective. Sans l'explicitation du chemin d'existence. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, vous lui dites que vous l'aimez, vous lui serrez la main. essence, il est comme naturel à nous. Il colle à notre peau. C'est le cas de le dire. Puisque le toucher, c'est à travers la peau. Il est là présent, constamment. Mais il n'est pas explicité. Et la philosophie, constamment explicite. Je me souviens quand on fait un cours sur le travail, par exemple, et qu'il y a des gens qui sont habitués au travail, qui vous écoutent. Si c'est curieux, vous explicitez ce que nous vivons. Couramment, mais vous l'explicitez. Je crois que c'est le rôle du philosophe d'expliciter constamment ce qu'on vit habituellement. Oui, là on rejoint, vous comprenez bien, on rejoint d'une manière toute différente. Mais ce que on appelle la relecture de sa vie, de ses actions, de ses activités. On explicite, expliciter quelque chose qui est du vécu. Mais la différence, c'est que le philosophe explicite jusqu'au jugement d'existence. Et tant que le jugement d'existence n'est pas explicité, on n'a pas ce contact direct, explicité par rapport au réel. C'est vrai ce que je disais, c'est pas l'oubli de l'être, mais Heidegger, c'est ça, je voulais revenir là-dessus. Heidegger dit qu'on a oublié de l'être parce qu'il vient après Hegel, qui oublie l'être. Mais ainsi que Kant, mais en réalité, c'est beaucoup plus le jugement d'existence, c'est-à-dire l'explicitation de notre contact de l'intelligence avec ce qui est. Donc, on l'oublie, c'est-à-dire on ne l'explicite pas. Alors, il n'y a que les philosophes qui explicitent le point de départ par le cogito, par l'intelligo, qui, eux, alors, mettent une muraille entre le réel et leur pensée. Parce qu'ils font que la pensée est première. Donc, ils oublient le réel. Mais les braves gens sont beaucoup plus proches de la philosophie que les intellectuels et que les scientifiques. Je voyais encore hier quelqu'un qui est dans l'informatique. Et puis c'est fou. Quand on vit dans un milieu de recherche d'informatique, mais le réel est complètement tout. On a deux vies. Sa vie humaine en dehors du travail et puis son travail. Et on est dans une recherche sans du tout se poser la question qu'est-ce qu'on atteint de réel là de tout ça. On est dans l'informatique. Oui. C'est ça que j'appelle le positivisme. C'est qu'on ne se pose plus la question du réel. On vit dans son monde d'idées, dans son monde de formules, dans son monde de méthodes, et puis c'est tout. Et puis il y a le réel. Il y a une double vie. Alors là, c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre à ces gens que, de fait, ce qu'ils font habituellement est en dehors du réel. Pour le savant, il ne se pose pas la question quand j'utilise un instrument, le microscope électronique, qu'est-ce que j'atteins du réel? Demandez à un astronome qu'est-ce qu'il atteint du réel. C'est très intéressant à poser la question. Je l'ai fait quelquefois, exprès. Vos chiffres astronomiques, qu'est-ce que ça atteint du réel? et on ne se pose plus le problème. On vit dans les chiffres. Donc on vit dans une logique. On vit dans des formules. Et c'est là où le philosophe a un rôle à la manière de Socrate, mais très différent de Socrate. Socrate de son temps, en face des sophistes, en disait, mais qu'est-ce que c'est difficile ce que vous dites? Quelle est la finalité de l'homme? Connais-toi toi-même. Bon, on devrait dire ça aux savants, connais-toi toi-même. Tous tes chiffres, toute ta science, qu'est-ce que ça te fait connaître de toi, de ton cœur, de ton intelligence, du réel?
Dans votre
c'est très important de comprendre que la plupart des hommes vivent du jugement d'existence, mais implicite, non pas explicite, et que la philosophie le rend explicite. Autre question. Pourriez-vous revenir sur la distinction entre la finalité de la pensée et la finalité de l'homme, d'une part, et sur l'ordre entre les deux finalités humaines, amitié et contemplation, d'autre part? Ça fait trois finalités, si je comprends bien. Est-ce que je peux dire ceci, ça s'identifie. vivre avec le Christ, c'est tout. Pour moi. Si je suis chrétien. Et tout ce que je fais est impliqué dans cette finalité. Même boire le café. Et s'il est très noir, je salue le Seigneur. Donc, voyez, différence entre la fin, la finalité de la pensée et la finalité de l'homme. Et d'autre part, dans la finalité de l'homme, je vois deux niveaux. Première fin, tout à fait code naturel à l'homme, l'amitié. Parce que dans l'amitié, j'aime une personne. Mon ami. Et la personne est un absolu. C'est un bien absolu. Qui est capable de me finaliser. Alors vous voyez, c'est ça qui est très curieux. C'est que l'autre peut me finaliser, mais pas moi. Je ne peux pas me finaliser par moi-même. Pourtant, je suis une personne. Alors là, je vous laisse devant ce petit problème. Ça, c'est un examen de conscience merveilleux. Celui qui dit ma finalité, c'est moi. Je n'ai pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Je suis la personne la plus agréable qui soit au monde. Je suis la personne la plus bonne qui soit au monde. Je suis la personne merveilleuse. Je ne me quitte jamais. Donc, il est d'une fidélité absolue. Alors, c'est ça que je cherche, la fidélité. Je m'aime. Vous êtes tellement plus agréable. L'autre, il me fuit tout le temps. Et puis, il peut tourner le dos. Je ne sais pas ce qu'il est exactement. Moi, je me sais, je sais. Donc, je m'aime, c'est ma finalité. Tandis que l'autre, je ne sais jamais. Toujours des tas de points d'interrogation. Et plus je le connais, il y a de points d'interrogation. Donc, c'est pas du tout l'ami qui est ma fin, c'est moi. Hein ? Pas si commode que ça de répondre. Pourquoi vous n'êtes pas pour vous-même votre propre fin? Posez la question, hein. Ça vaut la peine, ça vous purifie ou radicalement. Pourquoi vous n'êtes pas vous-même votre propre fin? Et pourquoi une personne autre que vous peut vous finaliser? Elle n'est pas plus que moi. Elle ne pèse pas plus lourd. Elle n'est pas plus intelligente. Elle n'est pas meilleure. Elle a un caractère de chien. Pourquoi elle me finalise? Pourquoi c'est mon ami qui me finalise? Dieu, je comprends, mais l'autre, il me montre mes limites. Et mon ami, il est tout le temps un tout petit peu grincheux. Et il me montre mes limites. Tandis que moi, je suis agréable à moi-même. Alors comment se fait-il que vous ne pouvez pas être votre propre fin? Et que si vous dites que vous êtes votre propre fin à vous-même, vous êtes dans un égocentrisme absolu. Et c'est votre bulle. Vous vous enfermez là-dedans. Hein, ça, c'est pas si commode que ça de voir ça. Comment une personne limité dans son être, comme moi-même, peut-être ma fin. Or, dans l'amitié, c'est ce que je dis. Ça, nous le verrons. Je vous pose la question, parce qu'il faut se poser des questions. Et il faut autant que possible découvrir vous-même. Parce qu'une fois que vous l'aurez découvert vous-même, c'est un petit examen de conscience philosophique. Les stoïciens, tous les matins, avant le petit déjeuner, avaient un examen philosophique. L'examen de conscience philosophique. Et nous faisons un cours pour cet examen philosophique. Mais première chose au point de vue examen philosophique, suis-je à moi-même et pour moi-même ma propre fin? Comment se fait-il qu'un autre qui n'est pas plus parfait que moi, qui est dans la série comme les autres. Oh, il est peut-être plus âgé, mais c'est pas ça. Parce que s'il est plus âgé, il deviendra plus vite que problème de conscience, d'examen de conscience philosophique. Je ne résous pas. Donc il y a deux finalités que nous verrons progressivement, l'amitié et la contemplation. Parce qu'on touche deux personnes qui, l'une et l'autre, sont mon bien. Toutes les personnes humaines ne sont pas mon bien, c'est l'ami. Je donne à une personne humaine en l'aimant, en la choisissant comme amie, une auréole de petit saint. Tu es mon ami. La première fois que vous avez entendu ça, tu es mon ami. Mais est-ce que c'est possible? C'est toi mon bonheur. Mais est-ce que c'est possible quand on se voit soi-même? On n'est pas si commode que ça à supporter. Comment peut être le bonheur de l'autre? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a qu'on puisse être le bonheur de l'autre? Que Dieu soit mon bonheur, que Jésus soit mon bonheur. Très bien, je comprends. Mais moi, oui, c'est l'autre perspective. On voit toutes ses limites. Vous voyez, là, il y a un très gros problème philosophique. Qu'on verra en éthique. C'est un gros problème de l'éthique, ça. Alors, la métaphysique en donne le fondement. La métaphysique montre que la personne est un certain absolu qui peut très bien, si je l'aime et si elle m'aime, faire qu'il y ait une rencontre merveilleuse, étonnante, et qui fait que ça peut être mon bien, ma fin. Alors laissez un point d'interrogation. Puis si je ne le retraite pas à la fin de l'année, vous reviendrez dessus. Alors, commencement de la métaphysique, jugement d'existence, ceci est. Or, si je regarde bien attentivement, le développement de la philosophie européenne, je vois qu'il y a deux commencement de la philosophie. Héraclite, ceci est. Alors, tous ceux de la famille d'Héraclite. Héraclite, Socrate, Aristote, après Thomas d'Aquin. Il y a un bon. Où il y aurait d'autres avant Maxime le Confesseur. Avant. Tous les autres, commencement de la philosophie, je suis. Alors, suffrage universel, 5 voix pour Aristote. Suffrage universel, 50 voix pour je suis. Il y a beaucoup plus de philosophes qui commencent par je suis. Savent qu'ils commencent par ceci. Donc, soyons quand même un tout petit peu loyal et disons qu'il vaut mieux commencer la philosophie par je suis que par ceci. Suffrage universel, puisqu'on est dans la sainte démocratie. C'est vrai, parce que tous les néoplatoniciens par je suis. Tous. Ils ne le disent pas. Mais si vous creusez un tout petit peu, je suis. Descartes, lui, il exprime, parce qu'il est naïf. Plotin était beaucoup moins naïf que Descartes. Alors il ne le dit pas. Mais si je suis attentif, Descartes dit cogito ergo sum. Donc en réalité, qu'est-ce qui cogite Descartes? C'est lui. Je suis. Il n'y a rien d'autre. Tu cogites tout et passes tout de suite à je suis. Oui, c'est ce que Husserl, avec beaucoup d'astuce, dit. Cogite tout, mais je pense à quoi? À qui? Quand un gosse dit je pense, qu'est-ce que vous lui dites? tu penses à qui? C'est ce que vous dites spontanément. Et il vous dit hein, quelque chose d'admirable. Quand vous dites ça, il ne dit pas « je pense à moi ». Non. Et Descartes, lui, en réalité, cogito ergo sum, donc il avoue que son cogito, c'est pour ergo sum. C'est pour ça, c'est la finalité. Je pense, je suis. Donc je suis dans je pense. Et si je ne pense pas, je ne suis pas. Donc le début de sa philosophie, c'est bien je suis. Ça ne peut pas nier. Le début de la philosophie d'un néoplatonicien comme Plotin. Plotin, c'est très très beau à lire. Ayez ça comme livre de chevet. Tous les soirs, lisez un petit entretien de Plotin. C'est très beau. Alors, il y a une Énéade de Plotin qui est très très belle. Quand Plotin dit, mais réveille-toi. Pourquoi es-tu tout le temps distrait? Pourquoi es-tu tout le temps distrait? Alors que tu oublies ce qu'il y a de plus divin en toi. Je suis. On oublie ce qu'il y a de divin. Qu'est-ce qu'il y a de divin en nous? L'intelligence. Mais l'intelligence qui se pense. L'intelligence peut regarder les réalités extérieures. Mais à ce moment-là, elle reste dans le multiple. Or, c'est l'un qui domine. Et l'un, où est-ce que tu le découvres? Je suis. Alors, le je suis est caché derrière l'un. C'est très curieux, vous voyez, de dévoiler le je suis de tous les néoplatoniciens du monde, de dévoiler le je suis de tous les idéalistes. En réalité, quand vous dites que vous commencez par l'idée, et l'idée n'existe que dans le je suis, et l'idée c'est le je suis. Donc toutes les idéologies commencent par le je suis. Toutes. Ça c'est très important de comprendre ça. De comprendre que de fait des quantités de philosophie, la plupart, je dis 50, on pourrait mettre 100, et d'aristotéliciens qui commencent, non non, je ne peux pas commencer par le je suis. Je dois commencer par ceci. Pourquoi? Parce que dans le je suis, ah, alors c'est ça qu'il faut bien comprendre, dans le je suis, l'être est caché par le je. Le je absorbe l'exister. Tandis qu'au contraire, dans ceci est, le ceci n'absorbe pas l'être. Pourquoi? Parce que le ceci, il est multiple. Ceci, c'est la vache, c'est la table, c'est moi, c'est toi, c'est tout. Il est multiple. Tandis que, et, ah, il est un. Et le multiple est toujours ordonné à l'un. Vous avez donc un mouvement inverse entre ceci et. Et je suis. Il y a un rythme différent de pensée. D'un côté, c'est le je qui l'emporte. Et de l'autre, c'est et qui l'emporte. Ça, il faut beaucoup réfléchir à ça. C'est capital. Si vous voulez ne pas tomber dans le néoplatonisme, et si vous ne faites pas grande attention, vous tomberez dedans à 45 ans. Parce que vous serez fatigué, l'aristotélie c'est fatigant. Parce que c'est toujours laisser l'autre passer devant. C'est pas drôle. Jusque 45 ans ça va. Mais à 45 ans quand même, maintenant. Hein, je suis pas. place devant les autres, c'est normal. Parce que j'ai ma propre conscience et je sais que je suis pas plus bête que les autres. Donc le jeu s'est gonflé. Et quand le jeu se gonfle et que ça tient la grenouille aussi grosse que le bœuf, il n'y a pas de plus gros que le bœuf. Donc, je. Et l'être est relatif à l'être. C'est extraordinaire, mais il est léger. Au point de philosophique, on s'aperçoit que la plupart, Odin Bouzla, des philosophes, commenceurs philosophie par le je suis. Ils sont enfermés dans le jeu. Et tout ce qui est intéressant est en référence avec le jeu. On s'aperçoit que ce n'est pas seulement les philosophes, mais c'est la plupart des hommes qui sont comme ça. Et les femmes le dénoncent bien. Tu ne t'occupes que de toi. La femme plus facilement regarde l'autre. C'est curieux, c'est comme ça. C'est un fait. L'homme et la philosophie à ce moment-là, la métaphysique, me corrigent de cet égocentrisme. Si je suis loyal, je laisse passer devant ceci est multiple. Donc voyez, le ceci est multiple, donc il ne cache pas l'être, puisque c'est l'être qui donne au ceci sa signification propre. Ceci est. Qu'il s'agisse de la vache, qu'il s'agisse du singe, qu'il s'agisse du chat, qu'il s'agisse du philosophe. Mais c'est là où on dit que Raïssa a eu l'intuition de l'être. C'est intéressant du reste. Il a communiqué à Jacques. Parce qu'elle a dit, le chat existe. Le chat, ceci, est. J'existe. C'est curieux. Tous les deux, nous existons. Le cuménisme de l'exister. Le chat existe, j'existe. Comment ça se fait? Donc ça prouve que l'être, l'exister, passe avant le ceci. Il a une signification bien plus profonde que le ceci. Alors, qu'est-ce qu'il est? Voyez, alors, en réalité, c'est pas l'intuition de l'être. C'est la découverte de la priorité de l'être sur toutes les autres déterminations. Alors, c'est bien le préambule de la découverte de l'être. C'est dévoiler l'être dans sa priorité. Alors on pourrait dire que l'intuition dévoile, je veux bien. Mais en réalité, ce n'est pas la connaissance de l'être. C'est dévoiler le primat de l'être. Et dévoiler le primat de l'être, ah, c'est très grand. À partir de là, je peux interroger qu'est-ce l'être. Je suis passé du présent à l'infinitif, selon la forme grammaticale. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Et quand j'ai posé qu'est-ce que c'est que l'être, je suis au seuil d'une nouvelle connaissance qui va m'introduire en philosophie première. Si je ne vois pas l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je ne serai jamais introduit en philosophie première. Donc, c'est très important. Je comprends très bien que Raïssa a été dans l'émerveillement de ça. Qu'est-ce que c'est que l'être? Heidegger a été tellement dans l'émerveillement de ça qu'il en est resté là, au seuil de la métaphysique. On met une couche de vernis. Formalisé, c'est une couche de vernis. Je formalise l'être et je suis devant quelque chose qui devient impossible à dépasser. Et Heidegger voit tellement l'impossibilité de dépasser les étangs qui sont prisonniers des sciences. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'il dit, il faut nier ça. Alors il faut nier les étangs. Pour arriver à penser l'être. C'est en annihilant les étangs. Il faut considérer que les étangs, c'est rien. Donc la science, c'est rien pour Heidegger. Pour qu'à partir de ce rien, ex nihilo, l'être apparaisse. Il le dit, hein. Il reprend la formule ex nihilo.
L'absolu de Dieu, et Hegel le prend pour lui.
pensée, ma pensée. C'est dans l'attitude réflexive de la pensée que la pensée subsiste. Que la pensée est. Que la pensée se donne à elle-même l'être et l'absolu. C'est très fort, hein, mais c'est très imaginatif. Donc c'est pas fort du tout. Que c'est imaginatif. Vous voyez, mais tout tourne autour de ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est, on est en présence de savoir si ceci est premier, ou si je suis est premier. Alors, je reprends le problème, hein, tout simplement, à la racine, puisque je vois que je suis devant des impasses. L'impasse heideggerienne, l'impasse hegelienne, l'impasse sartrienne. Je suis devant une impasse. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Des idéologies. Et uniquement des idéologies. Et donc, de mettre l'idée avant la réalité. Me mettre nombril du monde. Me mettre créateur du monde. Parce que ça aboutit à ça. Ça aboutit à cette fameuse phrase de Nietzsche. Si Dieu existe, il est le créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. Oui, ça, c'est le gosse qui frappe du pied. Devant son papa. Tu es papa, donc tu existes avant moi. Eh bien, moi, j'existe plus que toi. Et donc, je t'écoute pas. Et on tape du pied, c'est le gosse à 4 ans, il commence à faire ça. Il dit non. Le non en face de l'être, ça c'est la dialectique. C'est mettre la négation avant l'affirmation. Alors, je vois tout de suite que je ne peux pas penser, je ne peux pas commencer ma métaphysique par le je suis. Mais je vais récupérer le je suis au terme de ma métaphysique. Alors c'est cette récupération du je suis que nous verrons, qui sera très intéressante. Récupérer le je suis au terme de ma métaphysique. Mais le début de ma métaphysique ne peut être que ceci est. Pourquoi? Parce que le ceci est fait que le ceci est multiple et n'étouffe pas l'être qui fait l'unité. Le multiple est relatif à l'un. Et donc, c'est juste, il y a une certaine là intuition. Il y a une certaine intuition. L'intuition de Raïssa. Montre que les ceci sont multiples. Parce que les ceci sont multiples, ce qui est intéressant, c'est ce qui fait l'unité du multiple. Hein? Voyez, c'est pas une intuition, c'est l'analogie. Dans la diversité, je trouve l'unité. Et j'essaie de mettre cette unité en pleine lumière. Je vois que l'être est analogique. Si l'être est analogique, je veux saisir ce qu'est l'être. Et à ce moment-là, pour saisir ce que c'est que l'être, je mets l'être en pleine lumière. Dans un langage moderne, je dirais, je thématise l'être. C'est-à-dire, je le sépare de tout ce auquel il est lié et je le regarde pour lui-même. Et pour cela, je passe du présent à l'infinitif. Parce qu'un verbe, quand il est en dehors de l'infinitif, est toujours relatif à autre chose. Dans le langage, c'est comme ça. Ceci est, donc est relatif à ceci. Ceci sera, est relatif à ceci. Il n'y a que l'infinitif, qui est une forme grammaticale du verbe, et qui met le verbe comme un nom. L'infinitif fait du verbe un nom. Vous ne dites pas l'être de qui? L'être. Vous voyez, c'est comme si curieux, ça. Ce que fait l'interrogation. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Parce que on a négligé énormément l'interrogation dans la scolastique décadente. On n'a plus interrogé. L'idéaliste n'interroge plus. Dit Merleau-Ponty. Et il dit peut-être ça à cause de l'idéalisme et de la scolastique décadente. L'idéaliste n'interroge plus. On a dit aux gosses, c'est assommant l'interrogation. nouvelle, il y en avait une, vieille, qui portait tout un tronc, un vieux, vieil olivier complètement pourri. Elle le portait sur elle, comme une croix. Et le soir, je vais à la cafétéria, où je vois les hommes qui, pendant toute la journée, ont pris leur café. Et il y avait au milieu de l'homme de prière. Alors j'ai dit, comment ça se fait que les femmes travaillent toute la journée et que vous, vous êtes ici à jaser? Alors, on a traduit ça en arabe pour le poser à l'homme de prière. Puisque j'étais un homme de prière, je pouvais m'adresser à lui comme homme de prière. Alors, il y a un moment de silence. Puis il y a eu ce mot extraordinaire, la tradition. Ah, ça, ça. C'est comprendre ce que c'est. Hein. Et voyez là, le petit. Le langage charrie la tradition. Et on peut prendre uniquement l'écorce. Dernier fruit de la tradition, le langage. TGV. Dernier fruit de la tradition, TGV. De la culture européenne française, TGV. Et tout se ramène, TGV. Alors on dit ça. Le mot remplace la pensée. Et les gens ne pensent plus. Ils ont un langage suffisamment évolué. C'est le vieux problème de Platon, le vieux problème de Sartre. Est-ce que la réalité est avant le mot ou est-ce que le mot remplace la réalité? Le mot est analogue à la monnaie pour Aristote. Grâce à la monnaie, on n'est plus obligé de faire toujours du trust. J'amène mon âne, vous amenez votre bœuf, on va le changer. Mais comme le bœuf pèse plus lourd que l'âne, on en mettra l'âne et son petit. Et puis le bœuf sera tout seul et on pourra changer comme ça. J'amène des chaussures, vous amenez des bas et puis on va se changer. La monnaie permet la spéculation. Le mot permet la spéculation. On ne regarde plus la réalité, on ne regarde plus que la monnaie. On ne regarde plus que les mots. Vous voyez, on vit un siècle de spéculation. Avant que l'Europe existe, on a mis l'écu. Avant qu'il existe. Et on a spéculé là-dessus. Et un banquier suisse, ça aurait pu être un banquier français, hein, un banquier suisse, ça aurait pu être un banquier européen, a dit à quelqu'un, je le sais, parce que ça m'a été répété, voyez, je vous avais dit il y a un an, vous auriez dû changer tout votre argent en Suisse en écu. Vous auriez doublé de fortune aujourd'hui. Et 6 mois après, il dit, heureusement, vous n'avez pas changé votre argent en écu. Ils ont dit, la spéculation, vous voyez. Et au fond, ça fait comprendre comment les gens pensent aujourd'hui. Ils ne pensent plus le réel, ils pensent les mots. Alors, on fait une philosophie des mots. Si je fais une philosophie des mots, je n'atteins jamais l'être. Et vous comprenez? Parce qu'au point de vue du langage, l'être est relatif à ceci. L'être est relatif à ceci. Donc, au point de vue du langage, pas de métaphysique. L'être est relatif. Et uniquement relatif. Et donc, il n'y a que ceci qui est intéressant. Il n'y a que le jeu qui est intéressant.